Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, c'est ma ville.
Montpellier, c'est ma ville.
Montpellier, ma ville.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle saison reprend. J'espère que cet été vous a permis de faire le plein d'énergie. Et justement, puisque j'évoque l'énergie, nous ouvrons ce premier volet de votre magazine hebdomadaire en compagnie de l'Agence locale de l'énergie Montpellier, un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échange et de conseil en matière d'énergie et d'eau pour tous les consommateurs de la métropole montpelliéraine. Née d'une volonté des collectivités locales, la ville, la métropole de Montpellier et bien sûr la région. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle fois Nicolas Catin, chargé de mission grand public à l'ALE, l'Agence locale de l'énergie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être parmi nous pour ce tout premier numéro de la saison. Alors, demain mardi, à partir de 18h30, vous organisez le 42e Café Climat. Alors, je me permets une facilité. Pouvez-vous nous éclairer sur ce nouveau rendez-vous ?
Alors effectivement, pour le 42e Café Climat, on a choisi en fait la thématique de la pollution lumineuse. Mmh. Donc on va prendre ce thème-là, puis on va un petit peu faire le tour et le décrypter avec les différents experts, mmh. en donnant aussi les conseils pratiques, je dirais, sur ce qu'on peut faire au quotidien, mmh. et puis voir un peu en fonction des les impacts que ça a, et en fonction des différents secteurs d'activité, comment on peut travailler à la diminution, si tant est, de la pollution lumineuse. Mmh.
Parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences que ça a. Alors pour toutes celles et ceux qui sont en notre compagnie, pour qu'elles puissent réellement connaître les enjeux, mais également les solutions que vous proposez, parce que vous ne faites pas que dénoncer, vous apportez aussi, vous présentez des solutions. Alors nous allons détailler les effets de la pollution lumineuse. Alors, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on est un citadin, quand on vit dans la ville, la biodiversité.
Alors effectivement, la biodiversité, trop de lumière et biodiversité font pas vraiment bon ménage.
Et oui.
Parce qu'en fait, la majorité des espèces, qu'elles soient notamment les petites faunes, invertébrées, vivent plutôt la nuit. Mmh. Et en fait, ça a un impact vraiment direct, eux, sur leur mode de vie, sur leur façon de s'alimenter. Une proie qui va être plus facilement visible, donc plus facilement mangée. Des animaux qui sont vraiment habitués au noir, qui ont besoin de ça pour chasser, qui vont être perturbés par ce genre de cycle. Mmh. Je pense spontanément aux certains papillons, on a tous fait l'expérience, dans les phares ou plus simplement autour d'un lampadaire près de chez soi, on a une accumulation là de d'espèces, et on voit en fait au fur et à mesure des années, s'il y a un nouveau lampadaire qui est mis à un endroit, on voit ça foisonne les premières années, et au fur et à mesure ça diminue vraiment dans le temps, parce qu'en fait il y a une perturbation complète des cycles de ces animaux. Donc effectivement, au niveau de la biodiversité, il y a ça, il y a des perturbations aussi des vols des migrateurs. Certains se repèrent aux étoiles et ils voient plus trop les étoiles, malheureusement. Donc ça peut les gêner. Enfin voilà, il y a tout un c'est un peu catastrophique, mais ça a une tendance effectivement à globalement à affecter à la biodiversité.
Parce que c'est un véritable piège pour les insectes. Là vous avez dit papillons ou coléoptères. C'est cette source de lumière, c'est devenu un repère pour certains insectivores, comme la chauve-souris par exemple.
Oui, alors pour le coup, certains en profitent. Je pense aux geckos, aux chauves-souris notamment, qui vont pouvoir. Mais encore que les chauves-souris ont vraiment, normalement, elles se repèrent au radar. C'est pas du visuel pour elles, donc ça vient quand même perturber un petit peu leur façon de faire. Mmh. Je pense également aux lucioles. Je sais pas, est-ce que vous en voyez régulièrement, vous, des lucioles dans le ciel extérieur? Moi, pas souvent en ville et à la campagne, on est tout content d'en trouver. Les lucioles, en fait, eux, leur mode de reproduction pour attirer, en fait, c'est s'allumer. Mmh. Et si elles le font dans un environnement qui est déjà éclairé, il y a plus de raison d'être.
Exactement.
Donc elles sont chassées directement, concrètement, de ces territoires-là.
Alors, il y a d'autres conséquences. C'est une répercussion également sur les autres espèces insectivores. L'hirondelle, par exemple.
Oui, effectivement, s'il y a une diminution, une perturbation en tout cas de toute la faune dont elle se nourrit, tout ce qui est les insectes, effectivement, elle derrière, ça va impacter son mode de vie et sa façon de se nourrir, effectivement, aussi.
On a pu enregistrer un déplacement des hirondelles ou un changement de cet insectivore, ou pas vraiment?
Alors, sincèrement, j'aurais pas assez d'éléments pour vous répondre là-dessus. Je sais qu'il y a des perturbations, il y a des modifications, mais il faudrait, on a un spécialiste de la question là, qui pourra nous en dire un peu plus demain soir.
Demain soir, au café Climat. Et donc, les repères donc, des oiseaux migrateurs qui sont complètement chamboulés.
Oui, effectivement, comme je vous le disais, certains se repèrent avec les étoiles. Et quand on passe près, notamment, je pense à l'Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, on est sur des zones qui sont complètement polluées par la luminosité artificielle,
trop éclairée la nuit.
Et du coup, on a tous fait l'expérience, la Voie lactée, on la voit pas souvent, on la voit pas du tout à Montpellier.
Alors elle agit, cette pollution lumineuse, elle agit également sur la population, sur la santé publique. On constate quoi aujourd'hui en matière de santé ?
Alors en fait, en termes de santé, là aussi, on a des... C'est un peu difficile de gérer, de donner des éléments très concrets d'impact sur la santé directe humaine. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des influences, ça c'est évident. Mmh. En fait, notamment sur la production de la mélatonine, qui est une hormone en fait, qui rythme vraiment l'activité, qui régule la jour-nuit. On a besoin, vraiment, le corps a besoin de cette alternance jour-nuit marquée. Et en fait, quand on a une chambre qui est près d'une rue très éclairée, où l'été, on veut laisser un petit peu aérer, ou là même en ce moment, on veut laisser un petit peu aérer la nuit pour rafraîchir, eh bien, on a la lumière artificielle qui va rentrer. Et en fait, le cerveau est très sensible à ça, et donc ça impacte sur cette hormone là qui va ensuite, il y a des problématiques qui vont se poser. On le voit à une échelle beaucoup plus intense, je dirais, mais c'est pour donner un petit peu un parallèle avec les travailleurs de nuit qui sont plus affectés par certaines maladies parce que ce rythme là, le rythme circassien est un petit peu perturbé.
Oui, c'est vrai que là c'est pas un cycle normal pour ceux qui travaillent de nuit. Donc forcément, il y a un impact après sur la santé des personnes qui travaillent comme ça de nuit. Donc ça a un impact donc sur le sommeil. Il n'y a pas de sommeil réparateur. Et pas de sommeil réparateur, ça dérègle pas mal de choses.
Effectivement, la lumière artificielle en fait, va faire qu'on va se réveiller plus facilement, plus tôt notamment. Et donc on a effectivement moins profondément endormi. Et donc c'est un sommeil moins réparateur, moins régulateur aussi pour l'ensemble du corps.
Alors la pollution lumineuse agit, on va aborder un plan plus matériel, on va dire, elle agit également sur l'économie, les chiffres sont assez conséquents, du moins la facture, n'est-ce pas, pour les communes.
Ah oui, alors pour les communes, en fait, au-delà de la pollution, il ne faut pas dire que l'éclairage public des communes est une pollution lumineuse nécessairement, mais on va dire, chaque commune, bien sûr, tend à améliorer les choses, mais en fait, c'est juste aussi, pour donner un ordre de grandeur, les consommations électriques, en fait, liées à l'éclairage des rues, l'éclairage des communes, c'est en gros la moitié du poste de dépenses en électricité des communes. Donc voilà, c'est en gros...
C'est énorme.
Voilà, c'est énorme effectivement, parce qu'on se dit, bien, c'est éclairé la nuit, c'est pas forcément longtemps. Alors les produits on gagne vraiment en efficacité dans les produits d'éclairage, donc on consomme moins pour un éclairage égal, mais effectivement on est sur des niveaux d'éclairement qui sont relativement élevés. Quand on compare un petit peu avec nos voisins européens, je pense à l'Allemagne notamment, au Danemark, on est sur des niveaux d'éclairement qui sont beaucoup plus faibles, mais qui sont un peu plus culturels aussi.
C'est-à-dire plus culturel?
En fait, culturellement, on va dire, moi j'ai eu la chance d'aller en Allemagne cet été, et c'était vraiment très étonnant. Certaines rues qui étaient, on avait l'impression que certaines rues étaient secondaires parce que sous-éclairées. En fait, non, c'était le cas de toutes les rues. Et en fait, voilà, c'est culturellement, peut-être le citoyen allemand demande moins aussi aux collectivités en termes d'éclairement. Et donc, on a un rapport de 1 à 2 entre le niveau d'éclairement par habitant en France ou en Allemagne, par exemple.
D'autant que certaines idées reçues viennent fausser un peu cette appréhension des besoins réels. L'éclairage n'est pas, comme on nous le rappelle, largement le gage ultime de la sécurité routière, par exemple la nuit.
Alors là-dessus, c'est pas forcément lié effectivement à la sécurité routière, parce qu'on a tendance à constater que certains types d'éclairement aussi vont gêner un petit peu l'œil, parce que ça fait des trous noirs, et donc quand c'est mal fait, ça peut être limite à l'inverse plus gênant pour le conducteur. Ça peut être de la fatigue.
Oui, qui s'est adapté à une certaine obscurité.
Exactement, le jour nu, le trou noir, éclairement. Et puis aussi, on constate que sur des routes qui sont moins éclairées, eh bien les conducteurs sont plus vigilants aussi, parce que ils se focalisent plus effectivement sur ce qu'ils voient sur la route. Et puis en parallèle de ça, vous évoquez la sécurité, il y a aussi la sécurité, on va dire, publique dans les rues. Et en fait, là-dessus, les études qui ont été menées par rapport à des communes qui avaient expérimenté de l'extinction, qui font de l'extinction nocturne, donc qui coupent tout ou partie de leur éclairage nocturne en plein milieu de nuit, bien sûr, pas aux premières heures du jour ni à la tombée de la nuit. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'incidence sur les cambriolages ou autres.
Alors revenons au Café Climat que vous organisez demain, mardi à 18h30. Quel est le programme ?
Alors le programme de Café Climat, donc on a un représentant de l'AMPSEN. L'AMPSEN, c'est l'Association Nationale de la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, qui viendra donc nous présenter un petit peu les enjeux, ce qu'on a un petit peu dit là en résumé, les enjeux de la pollution nocturne. Qu'est-ce que c'est que la pollution nocturne? Quels impacts ça a sur les différents, sur la santé humaine, sur l'observation du ciel, parce que c'est un des premiers éléments concrets. On parlait de la Voie lactée tout à l'heure. Clairement, à Montpellier, à moins qu'il y ait une coupure, un blackout généralisé, une coupure de courant, on ne voit plus la Voie lactée. Il faut monter haut dans le Larzac, dans les Cévennes pour la retrouver. Et puis donc sur la santé, je l'ai évoqué, et sur la faune et la flore également. Et puis après, on verra tout un panel un petit peu de retours d'expérience sur des solutions qui ont été menées, concrètes, aussi bien pour les collectivités, les commerces ou encore les copropriétés.
Alors, c'est ce Café Climat demain, donc, c'est en amont du jour de la nuit qui se déroule le 8 octobre, hein, qui est organisé par l'association Agir pour l'environnement. Mais on y reviendra dans un instant. Alors justement, là, il y a une commune pilote, hein, qui expérimente depuis l'automne dernier une extinction partielle de son éclairage.
Effectivement, c'est la commune de Prades-le-Lez, sur la métropole, qui depuis effectivement un peu plus d'un an maintenant expérimente l'extinction partielle. Vous l'avez dit, hein, le but en fait, c'est de garder les rues principales en fait de la ville éclairées toute la nuit, hein, vraiment dans l'ensemble de la nuit.
L'artère principale,
qui traverse la commune. Et puis, tous les axes plutôt secondaires, qui sont beaucoup résidentiels sur Prades-le-Lez. En fait, il y a une extinction en fait qui a été donc testée de mémoire de 1h à 5h du matin, complète. Et donc, alors ça a été fait en concertation aussi avec la population, il y a des réunions d'information qui ont été faites, l'agence locale de l'énergie, on a eu la chance de participer, je dirais, à tout ça, la police municipale était présente aussi, pour, je dirais, vraiment accompagner tout le dispositif, et puis en termes de bilan, les premiers bilans, je dirais, qu'ils ont pu obtenir, ils sont à une baisse de consommation électrique de 21%, donc voilà.
Loin d'être à négliger.
Voilà, un temps de retour sur investissement imbattable parce que l'économie financière est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, il est entre 7 000 et 10 000 euros de mémoire pour un investissement de à peine quelques milliers d'euros parce que c'est des réglages d'horloge, des choses comme ça, un petit peu d'amélioration de matériel. Mais voilà, donc finalement, ça c'est plutôt probant. Il n'y a pas eu d'impact avéré sur, je l'évoquais, sur les cambriolages ou
les accidents,
Par rapport à ça. Voilà, c'est plutôt été bien reçu par la population. Il y a des panneaux d'information, si l'auditeur qui passe par Prades-le-Lez, là, il pourra jeter un œil. Il y a des panneaux d'information qui indiquent qu'il y a l'extinction partielle effectivement de certaines rues.
À partir de telle heure jusqu'à 5h du matin à peu près. Donc les bienfaits sont d'ores et déjà, on a pu les mesurer en un an.
Mais effectivement, alors il y a un avantage économique qui est certain pour la pour la ville,
pour la commune,
pour la commune. Après, sur les autres impacts, biodiversité, insectes, faune, flore, et puis santé, il est trop tôt pour le dire. Mais donc pour l'instant, la population accepte plutôt correctement. Il y a pas de d'opposition ferme en tout cas à ce,
Oui,
ce dispositif.
Tout le monde participe et tout le monde est d'accord avec cette mise en place. D'autres communes sont tentées d'appliquer cette mesure?
Alors il y a des réflexions effectivement. Pour ce qui est je sais que la ville de Montpellier pour le moment, c'est des choses qu'ils ont dans les cartons, on va dire, mais c'est pas encore, on va dire, acté politiquement. La ville de Montpellier, puis maintenant la métropole, la compétence éclairage public est maintenant passée à la métropole. En fait, il y a beaucoup d'actions qui sont faites correctives sur l'amélioration en fait de l'efficacité des points lumineux. Donc c'est déjà par là qu'il faut commencer, éclairer efficacement, c'est déjà peut-être un peu moins éclairé, et puis éclairé avec moins de consommation d'énergie et moins de gaspillage de lumière. Donc il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées dans ce sens-là. Pour le moment, l'histoire de l'extinction, c'est encore une perspective.
Mais on ne peut pas contraindre d'appliquer ce type de mesure à une commune. Là, je fais allusion à l'État. L'État ne pourrait pas imposer, dire dorénavant, les communes, il va falloir que vous travaillez réellement sur ces mesures à mettre en place.
Alors, il y a un texte qui est en vigueur, par rapport donc à l'extinction nocturne, notamment des communes, mais aussi de tout ce qui est commerce, locaux commerciaux, les vitrines, les publicités, les enseignes lumineuses, qui régule l'extinction nocturne de tout ça. Donc, après, on parlait des communes, elles agissent, il y a l'aspect, les voies, la voirie, donc l'éclairage de la voirie, ce qu'on appelle vraiment l'éclairage public. Et puis après, il y a tout ce qui est effectivement éclairage des locaux, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile à travailler. Et puis, il n'y a pas d'enjeu sociétal, entre guillemets, à éclairer des bureaux pendant la nuit. Donc là-dessus, parfois, il y a des petites erreurs qui peuvent arriver, mais pour le coup, c'est plutôt respecté. Et après, pour tout ce qui est des commerces et autres, effectivement, il y a une obligation d'extinction entre 1h et 6h du matin. Depuis un arrêté qui est sorti en 2013.
Exact,
qui est encore assez peu connu, on va dire, de la profession. Je pense notamment aux vitrines des commerçants, ce genre de choses.
Les enseignes, peut-être.
Les enseignes lumineuses également, tout le monde est concerné. Et donc c'est en train de se mettre en place. Ça répond un petit peu à votre question. Il y a déjà une loi qui caractérise les choses, mais elle ne s'applique pas effectivement à l'éclairage des rues.
Pour l'instant, c'est une loi qui s'adresse déjà aux professionnels.
Tout à fait.
Les grandes chaînes de magasins, les magasins qui ont les vitrines allumées toute la nuit.
Exactement.
C'est vrai que
je dirais que pour les citoyens qui nous écoutent, si en pleine nuit, à 2h du matin, on voit une vitrine ouverte, ou. Alors, bien sûr, ça, ça s'applique pas au commerce dont l'activité est nocturne, bien entendu.
On est
d'accord, mais voilà, faut c'est préciser.
Le commerce est fermé. Laisse la vitrine allumée pour qu'on le passant qui passe par là la nuit puisse voir ce qu'il y a en vitrine. Mais bon, je pense pas qu'on fasse du lèche vitrine à 2h du matin.
Sans doute pas. Donc c'est pour ça que ce texte est plutôt cohérent. Donc c'est entre 1h et 6h du matin, à moins que le commerce ouvre plus tôt. Et à ce moment-là, on peut réallumer 1h avant l'ouverture effective du magasin.
Alors demain, vous allez également apporter des solutions. Les commerces, là on vient de parler des commerces, mais également les bureaux qui sont soumis à cette obligation réglementaire, et aussi les bâtiments du patrimoine par exemple.
Exactement, en fait. Mais après, il y a quelques dérogations qui existent, hein, pour des bâtiments un petit peu classés ou des choses comme ça, des choses très spécifiques. Mais effectivement, donc on fait un rappel par rapport,
Des bâtiments qui valorisent peut-être le centre-ville ou...
Voilà, ce genre de choses, effectivement. Après, pareil, 1h, 6h du matin, on est vraiment sur des temps. Après, bon, il y a des dérogations pour Noël, des fêtes particulières, des choses comme ça. Mais ensuite, on évoquera aussi l'aspect concret, c'est qu'en gros, comment on peut choisir un luminaire, quoi. C'est quoi les luminaires qui font moins de pollution lumineuse quand quelqu'un va dans une grande surface de bricolage ou n'importe où acheter quelque chose pour éclairer sa terrasse éclairer l'extérieur de chez lui, il y a le choix il y a pas mal de choix en termes de types de luminaires différents, et tous ne sont pas aussi efficaces sur le plan de la limitation de la pollution lumineuse. Donc on fera des rappels un petit peu techniques aussi, des grandes lignes, un petit peu pour dire, quand vous êtes confronté à un choix comme ça, préférez des produits, pour faire simple, c'est tout ce qui est directif, qui va ramener la lumière là où on veut, au niveau du sol, a priori.
Et là, vous avez évoqué rapidement Noël. C'est pas un gros gaspillage quand même en matière d'éclairage, la période de Noël?
Noël, c'est une sorte de parenthèse un petit peu spéciale en termes de gestion d'énergie, parce qu'effectivement...
Est-ce que c'est pas aussi... certaines communes qui ont fait un effort toute l'année de limiter comme ça la consommation et qui à Noël relancent tout.
C'est un peu paradoxal parce que visuellement on a l'impression que c'est un peu la gabegie, mais en fait c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en fait dans les sources lumineuses, ce qui produit la lumière, et donc on est passé très rapidement là en une dizaine d'années d'ampoules à incandescence classique qui consommait beaucoup. Maintenant le parc d'éclairage luminaire est essentiellement en LED. Mais du coup la LED, vu qu'elle consomme très peu, c'est vrai que parfois on est tenté d'abuser un petit peu, de suréclairer. Pour rester raisonnable, et puis toujours pareil, éclairer quand il faut, là où il faut, et à la juste mesure. Mais effectivement, il y a Noël, c'est un peu une période un peu folle, et c'est vrai que on voit parfois des pavillons, des marchés individuels, il y a des gens qui se lâchent un peu, comme on dit.
C'est vrai qu'ils décorent leur façade d'une façon.
Heureusement que ça ne dure pas trop longtemps.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. En seconde partie, nous passons aux solutions proposées pour l'habitat privé. Comment allier efficacité énergétique et réduction de la pollution lumineuse? Et nous faisons également un tour sur les différentes compétences de l'Agence locale de l'énergie de Montpellier. Et c'est juste après ceci. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believe. We just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power. Alone in the dark, we're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder, but if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to believe in. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires, I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces we've forgotten, all the tracks we've given up. Only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to believe in. Head on down this very arbor.
this month alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. So I've been needing you.
Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Catin, chargé de mission grand public à l'ALE, Agence Locale de l'Énergie Montpellier. Juste avant cette pause, nous avons évoqué le rendez-vous de demain mardi à 18h30, le 42e Café Climat qui aura lieu donc à la salle Vigo Médiathèque Fellini à Montpellier. Le Café Climat, donc le thème de cette nouvelle édition, la pollution lumineuse, les enjeux, les conséquences sur la biodiversité, mais également en matière de santé publique, et puis l'impact également sur l'économie. Nous avons parlé des initiatives locales prises dans certaines communes et de la nouvelle réglementation obligatoire soumise aux entreprises. En ce qui concerne l'habitat privé, que préconisez-vous à l'ALE?
Alors, par rapport à ces questions d'éclairage, effectivement, eh bien, c'est déjà le choix. Hein, c'est dans le choix des sources, le type d'ampoule qu'on va choisir. Parce que nous, à l'Agence locale de l'énergie, on met bien sûr en avant l'efficacité énergétique hein, pour moins consommer d'énergie avec le même service rendu. Et donc, du coup, on peut regarder un petit peu, on peut comparer. En fait, même maintenant, en fait, on constate vraiment qu'en termes d'amélioration technique, les ampoules fluo-compactes, hein, qui étaient un petit peu qui prenaient la meilleure partie du marché maintenant, elles sont complètement dépassées par les ampoules LED. Alors, pas toutes les LED, hein. Faut faire un petit peu attention. Et donc, faut vraiment regarder, en fait, les critères d'efficacité. Maintenant, il y a l'étiquette énergie. Vous savez, A, B, C, D, là, les petites lettres de A en vert.
Qui classifie.
On l'a pour les maisons, pour les voitures, pour les pneus, voilà, pour les frigos. Et bien, donc, ça, c'est aussi, bien sûr, pour les ampoules basse consommation. Ça a indiqué.
Toujours se référer à ce tableau.
On se réfère à l'étiquette et on regarde effectivement, en gros, pour la quantité de lumière dégagée, ça s'exprime en lumens. Pour faire très simple, je résume. Avant, une ampoule de 60 watts, elle délivrait à peu près 700-800 lumens. C'est la quantité de lumière qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut 800 lumens et on va regarder l'ampoule qui va consommer le moins. Avec une ampoule fluo-compacte, on va être autour de 12-13 watts, et une ampoule LED performante de maintenant, on va être facilement à moins de 10 watts. Voilà, donc on va regarder ça et effectivement on va aller vers le produit le plus performant.
C'est assez technique. On peut vite se perdre. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les cafés climat sont organisés. Informer le.
Pour décrypter un petit peu ces solutions-là. Tout à fait. Après, voilà, je vais aller un peu rapide, mais c'est pour résumer un peu l'idée qu'il y a derrière l'étiquette énergie. L'étiquette énergie va classer en fonction de l'efficacité lumineuse, donc la quantité de lumière délivrée par rapport à un watt consommé. Donc effectivement, prenez du système A++, et là vous êtes bon en termes d'efficacité. Donc déjà il y a ce critère-là. Et deuxième critère par rapport à la pollution lumineuse, déjà en fait on va voir combien de temps on allume. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va allumer toute la nuit, H24? Si on va allumer le soir ou le matin, pareil, en plein milieu de nuit, c'est peut-être pas nécessaire, il n'y a peut-être pas d'usage, il n'y a peut-être personne qui va en profiter. On peut à ce moment-là le brancher sur une petite horloge, un petit programmateur là, qui va couper pendant la nuit. Donc on sera gagnant sur la pollution et sur les consommations d'énergie. Et enfin, dernier point, peut-être un des plus importants sur la pollution directe, c'est en fait la forme du luminaire, je l'évoquais tout à l'heure. Et en fait, c'est des luminaires qui sont directifs. En fait, quand vous avez des boules, vous savez, le fameux lampadaire boule, dans les copropriétés, on en voit parfois dans les des parcs privés individuels ou sur des balcons, le lampadaire boule, lui, le pauvre, il balance à peu près 60% de sa lumière vers le ciel. Donc en pure perte, quoi.
D'accord.
Et au pied du lampadaire, c'est très mal éclairé.
Oui, c'est pas une lumière orientée, on va dire.
Exactement, c'est pas une lumière orientée, vous avez mis le doigt dessus. Il faut orienter la lumière, là on en a besoin.
Complètement. Alors des spécialistes seront présents demain au Café Climat. Qui sont ces intervenants?
Alors on a deux intervenants principaux, là, c'est monsieur donc, Guillaume Breteau, c'est le correspondant Languedoc-Roussillon là, de la LAMPSEN, hein, je l'ai dit, c'est l'Association Nationale de la Protection du Ciel Nocturne et de l'Environnement Nocturne. Mmh. Donc lui, il est plutôt dans le domaine de l'astronomie, donc ils sont bien placés, je dirais, pour être les premiers aux avant-postes, je dirais, d'observation de l'impact de la pollution lumineuse. Et donc voilà, l'Association LAMPSEN, là, c'est une association qui est vraiment nationale, ils sont spécialistes du sujet de la pollution lumineuse sous tous ses aspects. Et puis on a aussi Samuel Pugrenier de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Mmh. L'ADEME Languedoc-Roussillon, enfin ex-Languedoc-Roussillon, basé à Montpellier. Et donc, il nous fera un retour d'expérience en fait sur des études qui ont été menées sur des commerces dans le Gard, en partenariat avec la CCI du Gard, sur en fait l'amélioration de l'éclairage en fait des vitrines. Et donc, il pourra nous faire un petit témoignage sur les solutions qui sont mises en œuvre pour améliorer les consommations d'éclairage et donc limiter aussi la pollution. Mmh. Et puis un petit peu sur le ressenti des commerçants vis-à-vis de ces obligations là qu'on a évoquées d'extinction nocturne, qui sont finalement assez peu connues encore de ce milieu-là.
Mais est-ce qu'on a pu enregistrer jusqu'à présent des pertes, entre guillemets, chez certains commerçants parce qu'ils avaient éteint leur vitrine la nuit?
J'ai pas d'éléments. A priori, effectivement, on peut se dire que ça semble pas avoir un impact. Après, c'est plutôt des questions un petit peu de présence, de sécurité, de choses comme ça qui sont sur le tapis, plus par rapport à l'aspect chiffre d'affaires.
Alors l'ALE fait partie d'un réseau d'environ 250 agences en Europe, une trentaine en France, qui agissent au niveau local à la préservation donc globale de notre environnement. Votre champ de compétences est vaste. Vous intervenez auprès des particuliers, collectivités, copropriétés. Présentez-nous un peu plus l'ALE.
Effectivement, donc ALE, Agence Locale de l'Énergie, donc nous sommes une association loi 1901, et donc ce qu'on propose au public que vous avez cité là est gratuit. Donc un des points publics, c'est le grand public, les particuliers, donc n'importe qui en fait, habitant de la métropole, là, peut venir nous solliciter, prendre un rendez-vous au besoin, nous questionner par téléphone ou par mail sur tous les sujets des économies d'énergie et d'eau dans l'habitat. Alors c'est relativement vaste, mais je donne quelques exemples. Ça va du choix d'ampoule, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure. On prête du matériel économe, là il y a un de vos collègues là, qui a emprunté la mallette économe.
Prêter la mallette et qu'il en est ravi.
Qu'on met à disposition.
Je ne sais pas s'il va vous le rendre.
À disposition gratuitement. Donc voilà, on fait la promotion un petit peu de ce genre de produit-là.
Cette fameuse mallette, elle est équipée donc de différents appareils qui permet de mesurer. Donc,
en fait, on mesure ces débits d'eau, on peut mesurer un petit peu, on peut avoir une idée un petit peu des températures des murs, donc voir un petit peu par rapport à l'isolation, la température de l'eau chaude sanitaire. On va mesurer ces débits de robinet, de douche, on va regarder aussi tout ce qui est consommation électrique en veille, grâce à des petits appareils qu'on prête. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a dedans, dans la mallette, il y a aussi des petits produits qu'on peut tester. Il y a justement les ampoules à LED que j'évoquais, très performantes. Là, on peut vraiment s'éclairer avec pendant 10 jours pour voir ce que ça donne. On a mis des douchettes économes pour économiser l'eau, on peut prendre une douche avec, pareil, pour voir ce que ça donne avant de passer à l'acte. Nous, on vend pas de matériel, bien sûr, mais après, si les gens sont intéressés, on peut leur donner une liste de fournisseurs.
Vous suggérez justement dans cette mallette, c'est une suggestion de matériel.
Exactement.
Qui fait qu'on va forcément économiser.
Tout à fait, oui, ça marche quasiment tous les coups.
Lorsque vous prêtez une valise, le particulier peut la garder combien de temps? 15 jours, 3 semaines?
Voilà, en fait, il y a un chèque de caution qui est de 150 euros, c'est histoire de responsabiliser un petit peu les gens qui nous la prennent, et ça se passe toujours très bien. Et puis, les gens la gardent effectivement 15 jours, 3 semaines maxi, la ramènent ensuite, et puis on discute, on débriefe un peu, comme on dit, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été mené, qu'est-ce qui a été constaté, et puis ce que peuvent faire ensuite les gens plus concrètement dans leur logement.
Alors, on reste toujours au niveau du particulier, économiser l'énergie, l'eau, utiliser les énergies renouvelables, construction et rénovation. On peut venir aussi vous solliciter si on veut faire construire ou rénover un appartement ou une maison.
Effectivement, je dirais que c'est même le gros de notre cœur de compétence. En fait, c'est les gens qui veulent améliorer en fait les performances énergétiques de leur logement, soit pour des questions de charges trop élevées, soit pour des questions d'inconfort, mais souvent c'est un petit peu lié. Donc en fait, quelle épaisseur d'isolant je mets, par où je commence, est-ce que je dois mettre des énergies renouvelables, est-ce que je dois changer mon chauffage, est-ce que je dois plutôt privilégier l'isolation, est-ce que je fais de la ventilation, oui, non, est-ce qu'il y a des aides financières derrière, le taux de TVA, le crédit d'impôt.
Et justement, vous accompagnez aussi pour trouver Des aides financières.
Exactement, voilà, on peut dérouler... Enfin,
les aides qui sont existantes et qu'on peut demander.
Voilà, tout un panel d'aides financières associées à la rénovation énergétique. Et effectivement, ben, on est là pour aider les gens à appréhender un petit peu tout ça et à aller chercher les aides quand il faut, là où il faut. Et puis on met aussi en relation avec des listings de professionnels qui sont référencés pour que les gens aillent chercher vers ces professionnels-là qui sont formés.
Alors, vous intervenez également auprès des collectivités qui vous sollicitent. Alors là, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, l'éclairage public, forcément. Véhicules mobilité, énergie dans les bâtiments administratifs.
Oui, alors effectivement, là, c'est un domaine qu'on développe aussi. C'est fonction un petit peu aussi des partenariats avec lesquels on a au niveau des collectivités. On est un petit peu moins effectivement sur les bâtiments, notamment tertiaires ou autres, où là, on est un petit peu en limite de compétences. Mais sur les collectivités, en fait, on propose un suivi de consommation en fait des communes que les petites communes notamment ne peuvent pas ou n'ont pas encore acquis en termes de compétences internes. Et puis, là, on est là un petit peu en termes de conseils aussi autour de tout ce qui est effectivement de consommation d'énergie, projet d'énergie. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un potentiel déjà de 10-20% d'économie d'énergie simplement sur de la bonne régulation, de la bonne gestion des bâtiments, sur la consommation d'énergie avant d'aller chercher à investir des travaux plus conséquents.
Et vous les accompagnez également sur la sensibilisation.
Exactement, voilà, avec des réunions d'information.
Les collectivités qui voudraient sensibiliser donc les habitants de la commune, vous les accompagnez, vous leur donnez les...
Alors, on leur donne de la matière, effectivement, on organise des choses. Là, bientôt, à Castelnau-le-Lez, par exemple, les 7 et 8 octobre prochains, on organise la fête de l'énergie. Donc, on fera des permanences en mairie le vendredi, et puis il y aura une animation le samedi matin, là, avec un vélo, DJ vélo. Les gens font de la musique, avec un DJ qui sera alimenté en pédalant. Voilà.
D'accord. Ah, ben ça va être sympa.
On va bien rigoler.
Alors, et bon, vous intervenez également avec les copropriétés.
Exactement.
Alors bon, là on revient sur les travaux et rénovations, connaître la réglementation en vigueur.
Exactement, en copropriété, il y a pas mal de réglementations sur l'énergie là, qui sont tombées là, ces dernières années, et donc les syndics, les conseils syndicaux sont en première loge, donc on est là pour leur apporter de l'information, pareil pour les encourager à faire des suivis de consommation, et puis pour être présent éventuellement, donc venir intervenir en conseil syndical pour sensibiliser un petit peu les membres des gens qui sont dans la gestion des copropriétés, voire en assemblée générale s'il le faut par exemple.
Et vous les accompagnez également sur les financements des travaux.
Pareil, effectivement, là encore.
Voilà, vous les orientez.
Tout à fait.
Et également, vous organisez avec les copropriétés des ateliers.
Exactement, atelier copropriété, ça s'appelle comme ça, où en fait on essaie de mettre en avant des retours d'expérience de copro qui ont fait des choses, des actions, qui ont voté des travaux pour diffuser un petit peu ces bonnes pratiques auprès d'autres résidences qui se poseraient les questions.
Alors, un mot sur le jour de la nuit qui a lieu le 8 octobre prochain, organisé par l'association Agir pour l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est cette opération ?
Et ben, en fait, c'est une opération de mise en avant, de sensibilisation à la pollution lumineuse. Et en fait, le jour de la nuit, c'est organisé, donc, vous l'avez dit, par Agir pour l'environnement, qui recense derrière, qui regroupe pas mal d'associations là, qui œuvrent dans ce sens-là. Mmh. Et en fait, eux, c'est pour faire un peu pression sur les collectivités locales, pour leur montrer que c'est possible de tester un petit peu, d'expérimenter d'extinction nocturne, que c'est pas si grave, que ça fonctionne, que les gens vont pas crier au scandale parce qu'on éteint quelques lampadaires entre 1h du matin et 5h du matin, par
exact,
exemple.
Oui.
Voilà un petit peu l'idée. Et donc, c'était aussi en ça, ça précède un petit peu ce qu'a fait Climat. Là, c'était aussi de façon d'annoncer un petit peu cet événement-là. Alors, en fait, j'ai été en contact avec eux, mais on n'a pas encore de programme détaillé. Mais il y a un site internet qui est plutôt bien fait, là, qui vont renseigner au fur et à mesure.
Ils ont mis quand même un petit peu un programme, c'est balade nocturne, observation des étoiles, sortie nature et extinction, je vais y arriver, des lumières. Bon.
Voilà, mais je sais pas s'il y a des opérations sur Montpellier ou alentour qui se font sur la métropole. Voilà, effectivement, le programme, vous l'avez très bien rappelé, c'est effectivement, c'est mettre en avant, effectivement, de sortir un peu le nez dehors le soir pour aller voir ce qui s'y passe et constater qu'effectivement, on peut limiter la pollution lumineuse pour voir des choses plutôt intéressantes.
Donc, nous suivrons donc cet événement qui a lieu le 8 octobre pour pouvoir justement dire où ça va se dérouler à Montpellier ou ses environs. Nicolas Catin, merci.
Merci beaucoup.
Ne manquez pas demain, mardi, dès 18h30, 42e Café Climat, donc à la salle Vigo Médiathèque Fellini, au rez-de-chaussée, à la Médiathèque Fellini. L'agence locale de l'énergie Montpellier. C'était votre rendez-vous hebdomadaire Montpellier, ma ville. Bye bye.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, c'est ma ville.
Montpellier, c'est ma ville.
Montpellier, ma ville.